suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel.
Il est 8h passé de quelques minutes en ce premier lundi du mois d'octobre, c'est ça?
Oui, le 2.
Voilà, et comme tout le premier lundi du mois, eh bien, c'est l'heure de Tous Essentiels, l'émission du Revenu de Base avec Virginie aujourd'hui. Bonjour Virginie.
Bonjour Max.
Ça va bien?
Oui, c'est tôt hein, le lundi comme
ça. Ah, mais c'est vraiment beaucoup trop tôt. Mais pas si tôt que ça, vu que tu as quand même réussi à nous dégoter un invité.
Mais oui, écoute, enfin, ils sont fous. Ils sont capables de se réveiller à cette heure-là pour nous aider à voir le monde avec de nouveaux yeux. Et aujourd'hui, on a un nouvel essentiel qui s'appelle Guillaume Matelier. Guillaume, es-tu là?
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, on est au téléphone avec toi parce que tu ne nous viens pas de la région, hélas. Tu nous appelles de Haute-Savoie.
Je viens de très très loin, effectivement, de Haute-Savoie. Je ne suis pas encore tout à fait dans le sud, mais je suis à mi-chemin, quoi.
Oui, chez nous, les ch'tis, à partir de Paris, c'est le sud. Hein.
Et les Marseillais au-dessus de Marseille, c'est le nord. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est à peu près au milieu. On est à peu près au milieu.
En tout cas, on va te passer à la moulinette de notre question préférée, pour commencer. Et puis après, on entamera cette émission pour découvrir la version de Revenu de Base que tu portes. Donc d'abord, imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte, il n'y a rien à faire, c'est à ton nom et c'est jusqu'à ta mort. Qu'est-ce que ça changerait pour toi?
Bon, je pense que ça changerait quand même passablement de choses, même si j'ai un travail que j'aime actuellement. Et voilà, enseigner, c'est un métier merveilleux. Je suis aussi maire d'une commune. Alors, c'est un métier, on y passe beaucoup de temps, mais on fait le bien pour tous. Mais c'est vrai qu'à certains moments, j'aurais aimé arrêter et en me disant, bah, tiens, est-ce que tu voudrais faire autre chose? Si tu avais l'occasion de le faire, bah, je crois que j'aurais aimé écrire plus de livres que j'en écris actuellement. Et ça m'aurait donné l'occasion peut-être de voyager pour les écrire, de voir d'autres cultures, d'autres personnes, de rencontrer l'altérité. Et puis, je mettrais ça aussi avec un autre objectif que je fais déjà en partie, mais j'aurais aimé l'approfondir, bah, m'occuper beaucoup plus des jeunes. J'ai été éducateur de football pendant 10 ans. Je m'occupe aussi des enfants à l'athlétisme aujourd'hui. Et puis, j'aimerais peut-être passer plus de temps à faire du sport et à m'occuper des jeunes à travers le sport et la culture. Voilà. C'est tous assez modeste comme objectif, mais c'est un objectif qui, pour moi, est important et qui me donne du sens et donne du sens à ma vie, comme je l'espère à beaucoup d'autres bénévoles.
Mais j'entends qu'en fait, tu as déjà plusieurs vies en une seule. Donc, le revenu de base te permettrait en fait d'en avoir encore plus, c'est ça?
Oui, c'est pour ça que si j'ai plusieurs vies, il faut me verser plusieurs revenus de base.
Bah oui, j'imagine.
Belle déduction. Non, mais oui, j'ai plusieurs vies, mais c'est aussi le lot quotidien des militants, de ceux qui s'engagent. On peut pas rester comme ça, les bras ballants, et puis à chaque fois qu'on nous dit oui, tu ferais bien de t'arrêter, et puis qu'on y pense quand même 5 minutes, on a du mal à s'arrêter. Quand on est militant, quand on y croit, quand on a la foi que les choses peuvent changer encore plus dans une société qui, comme aujourd'hui, est un peu en difficulté, une démocratie qui est un peu aux abois, eh ben, on a l'impression que chaque minute qu'on passe à être avec les autres, à faire quelque chose qui a du sens, sans avoir à le dire tout le temps, est une minute de gagner pour la société. Donc c'est pour ça que j'ai plusieurs vies aussi.
Mais oui, je suis heureuse que tu parles du sens, parce que c'est vrai que quand on parle de la valeur travail, on oublie souvent qu'elle dépend en fait du sens qu'on peut avoir à son activité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit emploi ou pas. Alors j'étais bien embêtée pour essayer de trouver comment j'allais te présenter. Donc d'abord, tu t'appelles Guillaume Matelier, parce que je trouve qu'il y a un grand décalage entre le contact qu'on a, qui est très simple, très fluide, on se tutoie, entre deux citoyens lambda, quoi. Et en même temps, ben voilà, t'as quand même un curriculum vitae, c'est même pas un CV, hein, parce que c'est tellement long que c'est un curriculum vitae. Sciences politiques à Genève, recherche éthique appliquée, tu enseignes en gestion, et là tu nous parles en plus de foot et de sport. Donc voilà, j'ai essayé de dire ça très vite parce que c'est pas ce qui reste finalement du lien qu'on peut avoir avec toi, parce que t'es très très accessible et tes livres aussi, et tes vidéos aussi. Donc je suis heureuse de te recevoir pour que tu puisses partager ta version. Donc que toi tu appelles le revenu minimum d'existence allié avec un capital pour démarrer la vie en fait. Donc un capital d'émancipation. Donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, on va rentrer dans le concret, mais j'aimerais d'abord qu'on passe par la phase ambition en fait. Justement, c'est quoi les valeurs? Qu'est-ce que tu attends de cette version-là? Imaginons, allez, rêvons un peu, parce qu'on est dans l'émission des utopies réalistes. Qu'est-ce que tu attends comme changements sociétaux, individuellement, mais aussi collectivement, de tout ce travail-là que tu as construit autour de cette version?
Déjà, j'aime bien que vous partiez directement sur l'idée d'utopie réaliste, parce que l'un des philosophes qui m'a le plus inspiré, même si je ne suis pas forcément un disciple, moi je suis un peu disciple de personne, je ne vais pas dire que je suis ni Dieu ni maître, mais je pense que il y a beaucoup de gens qui peuvent nous inspirer et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il faut essayer d'en choper la substantifique moelle de chacun, essayer d'en faire quelque chose d'intéressant. Et Utopie réaliste, moi je l'ai lu au moment où j'étais encore doctorant avec John Rawls, qui est un philosophe majeur de la philosophie politique, notamment américaine, quand il a écrit Théorie de la justice en 1971. Et ce mot Utopie réaliste d'ailleurs m'avait beaucoup marqué. Parce que John Rawls est un philosophe plutôt analytique, c'est pas quelqu'un qui s'est vraiment intégré dans la société, dans le militantisme, dans l'action. Il a cité une fois une pétition contre le Vietnam, à une époque où finalement c'était assez courant de le faire. Et moi je me suis dit, mais si on veut vraiment être dans l'utopie réaliste, il faut faire de la philosophie pratique. Parce que vous disiez tout à l'heure... peut être quelqu'un d'accessible, etc. Oui, parce qu'à un moment, le philosophe, il doit descendre, il doit mettre les mains dans le cambouis, et puis à un moment, on ne peut pas rester les mains dans le cambouis, et donc pour mettre la tête dans les nuages. Moi, c'est ce qui m'a toujours passionné dans la philosophie, c'est de pouvoir ramener ce sens-là à des idées assez essentielles, pour reprendre le nom de votre émission, parce qu'elles me paraissent aujourd'hui non seulement à défendre, c'est des zones philosophiques à défendre, on pourrait les appeler comme ça, et c'est surtout ce qui a donné auparavant du sens à la démocratie et qui en donnera encore. Alors, partie de ce principe-là de philosophie pratique, pour moi, ce qui est important et l'ambition de ma proposition, c'est de garantir au minimum deux choses, mais elles sont essentielles, elles sont au cœur de ce que devrait être l'humanité et l'être humain. C'est dans un premier temps la dignité. Cynthia Fleury, d'ailleurs, vient d'écrire un très bon livre qui s'appelle « Clinique de la dignité ». Alors, je ne vais pas faire le pédant, je n'ai pas fini de le lire, mais je suis en cours. Et rien que le début me passionne. Après, je crois que ça questionne encore à nouveau sur qu'est-ce que la dignité, l'essentiel même, ce que l'on doit garder de tout cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose, quand on perd cette dignité, finalement, on perd son humanité. Donc, premièrement, la dignité. Et puis, deuxièmement, l'émancipation. Alors, certains lient l'émancipation avec la dignité, et je pense que d'un point de vue philosophique, c'est pas totalement faux, parce que ça peut être un dérivé, mais pour moi, c'est quand même un objectif politique et philosophique différent. S'émanciper ou émanciper sa condition, ça va bien au-delà que d'assurer sa dignité. C'est pour ça que dans la version que je propose, il y a d'une part le revenu d'existence, qui est là pour moi pour assurer la dignité, c'est-à-dire cette régularité, ce dont on a besoin au quotidien. Et puis le capital d'émancipation, parce que ce capital d'émancipation, c'est deux façons de départ. Elle est là pour donner le starter essentiel à des jeunes qui ont besoin de se lancer dans la vie. C'est ce que, par exemple, Piketty appelle l'héritage pour tous. Moi, j'en fais un mécanisme intégré, mais j'aurai l'occasion de vous en dire un peu plus. Voilà. En tout cas, pour moi, l'ambition de ma version, c'est la dignité d'une part et l'émancipation d'autre part.
Alors, du coup, concrètement, imaginons qu'il est en place, qu'est-ce que, par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce que ça changerait? Imagine même dans ton village ou parmi les jeunes que tu citais.
Alors pour les auditeurs qui auraient l'audace d'écouter une belle émission comme la vôtre, ce n'est pas un village que j'administre, c'est bien une petite ville. Même si on pourrait y penser, mais c'est une petite ville. Voilà, donc pour les Ambiliens, c'est important de le redire comme ça. Mais au-delà de ça, c'est pour moi important, encore une fois, de redire que si on fait de la philosophie pratique, il y a des répercussions au quotidien. Donc votre question, elle est tout à fait pertinente et essentielle. Au quotidien, ça change le rapport que l'on a au travail. C'est-à-dire que le travail, c'est une forme de réalisation possible parmi d'autres. Encore faut-il bien définir ce qu'est le travail, puisque ce que nous amène, par exemple, aujourd'hui le gouvernement comme vision du travail, c'est une vision de l'emploi rémunéré, ni plus ni moins.
Oui.
Et pour moi, ça va bien au-delà. D'ailleurs, la réforme France Travail, pour moi, est une abominable dans ce sens-là, puisqu'elle réduit globalement le travail à l'emploi rémunéré. Ça, c'est la première chose. Pour le reste du travail, eh bien, c'est un travail qui parfois n'est pas rémunéré, c'est un travail social, c'est un travail de bénévole, c'est un travail que l'on peut faire à la maison, ce genre de choses, qui n'est pas forcément rémunéré, mais qui a du sens. D'ailleurs, je le dis, et fermons tous les yeux à un moment précis et posons-nous la question, s'il y avait une grève du bénévolat, ne serait-ce qu'une semaine, regardons les conséquences que ça aurait sur l'économie française. Je vous garantis, je pense qu'on fera en sorte que cette grève s'arrête très rapidement, puisque cela aura des conséquences sur les services publics, sur l'économie, très clairement aussi, puisque bah, quand vous êtes bénévole dans un club de foot, comme je l'ai été, eh bien, vous faites tourner l'économie, d'une certaine manière, parce que vous gardez, alors je mets bien sûr tous les guillemets du monde, mais vous gardez les enfants pendant que les parents continuent à travailler, donc vous êtes générateur d'une économie. Et donc cette vision restrictive de l'économie est complètement absurde, et je dirais même d'une certaine manière abrutie aujourd'hui par une forme de capitalisme complètement dévoyé.
Je voulais juste compléter un petit peu par un chiffre, c'est qu'il y a deux tiers des heures de travail, mais dans le sens très général, qui sont en fait du bénévolat. C'est un chiffre qui a beaucoup circulé et où on voit effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, que je fais aussi le parallèle avec le temps du Covid, les confinements, où on a beaucoup manqué de ce temps bénévole, parce qu'au-delà des personnes essentielles ou non essentielles, on s'est rendu compte que le bénévolat faisait partie des angles morts, en fait. Et on a une politique aujourd'hui, juste pour compléter ce que tu dis, qui en même temps réduit officiellement la participation à la société. Donc quand tu dis réalisation, j'entends réalisation de soi, mais aussi réalisation pour le commun, à l'emploi, un emploi salarié est souvent subordonné. Et en même temps, il y a un double discours parce qu'on nous pousse aussi de plus en plus à faire du bénévolat. Donc il y a France Bénévolat aussi qui existe. Il y a le nouveau service national pour les jeunes qui va... Bon, il nous menace de le rendre obligatoire et il comporte un temps quand même conséquent de bénévolat. Donc il y a une sorte d'hypocrisie à en même temps réduire la légitimité, tu parlais de dignité, on ne peut être digne que si on a un emploi rémunéré, et en même temps on nous pousse à faire du bénévolat, mais ça fait pas manger, et je parle même pas des heures de travail qu'on oblige de plus en plus les allocataires du RSA à faire. Je voulais juste compléter un petit peu par rapport
Non mais merci, parce que ce sont des éléments qui sont très important pour la discussion qu'on a. Le bénévolat, il faut le redire aussi, ça ne doit jamais être quelque chose d'obligatoire. Ça n'a aucun sens, puisque bénévolat, ça veut dire avant tout la bonne volonté, c'est-à-dire que l'on met de la bonne volonté à s'engager pour la société. Donc j'ai jamais vu ou rarement vu une bonne volonté qui serait obligatoire. Les mots ont du sens, hein, très clairement. Et pour reprendre sur ce que je disais sur le travail, souvent, l'un des arguments, c'est de dire que le revenu de base nierait le travail, que les gens n'iraient plus travailler, qu'ils deviendraient oisifs. Mais c'est se confronter à toutes les expériences qui montrent tout le contraire. Non, c'est un travail choisi, pas subi. C'est un travail où on retrouve un équilibre, hein, si on veut parler concrètement, avec son employeur, où on peut discuter davantage d'égal à égal, où ça remet une certaine altérité, une certaine égalité dans la discussion, en disant, écoute, très bien, mais si tu veux pas m'augmenter, moi je sais que je peux me retirer, aller chercher autre chose. Donc ça donne quand même une vision rééquilibrée des rapports de force que l'on peut avoir dans l'activité salariée. Mais au-delà de ça, le revenu de base au quotidien permettrait, en tout cas dans la vision que je défends, eh bien de s'intéresser à ce qui est essentiel, encore pour reprendre votre mot, ce qui me paraît important, et puis il a été remis en avant avec le Covid, et ce qui apparaît essentiel dans la société. On peut tout à fait, par exemple, vouloir choisir un travail pas forcément très intéressant, avec un sens très moyen, mais pour avoir de l'argent au quotidien, en se disant, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire mon travail, et quand je sors du travail, eh bien, je vais m'engager ailleurs, je suis avec mes amis, je passe des week-ends merveilleux à faire des activités, et c'est ça le sens de ma vie. Et chacun cale le sens de sa vie là où ça lui paraît le plus important, d'une certaine manière. Certains se réalisent à travers le travail, tant mieux pour eux, mais il ne faut pas penser que c'est un modèle unique. Donc voilà, je crois en tout cas que le rapport du revenu de base avec le travail est un rapport qu'il faut toujours questionner, et encore une fois, avec le travail rémunéré d'une part et non rémunéré d'autre part. C'est en cela que l'impact sociétal est important. Moi, j'imagine toujours que le revenu de base, ou le revenu d'existence, comme je l'appelle, mais je fais plutôt une équivalence là-dessus, et j'expliquerai peut-être pourquoi je l'appelle revenu d'existence par ailleurs. Il faut toujours penser que si on le réduit à une mécanique, à un mécanisme, je pense qu'on fait une erreur. Et c'est pour ça que peut-être je ne vois pas toujours d'une vision économique, mais d'une vision philosophique. C'est que j'ai l'impression quand même que quand on parle du revenu d'existence, eh bien, c'est comme si on tirait un fil et qu'il y a tout qui vient avec. Parce que ça a des répercussions sur l'ensemble de la société.
Mais oui.
Sur le rapport que l'on a aux autres, sur le rapport que l'on a aux institutions, sur le rapport que l'on a à la société dans un sens large. Et qu'on ne tort de se priver de cette réflexion philosophique pour réduire le revenu de base ou le revenu d'existence à une vision économique. Ça, c'est vraiment pour moi important de le redire. Et puis la deuxième partie...
Alors, attends, juste avant de se lancer dans la deuxième partie, ce que je voudrais, c'est repréciser que nous, on dit revenu de base... Pour un terme générique, en fait, c'est basic income, justement pour pouvoir intégrer toutes les versions. Donc, ça n'exclut absolument pas les noms de chacune des versions. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est en même temps un levier collectif et égalitaire. Et en même temps, quelque chose qui, finalement, donne de la liberté à l'individu. Donc, il y a une notion en même temps de bien commun et en même temps une confiance à l'individu dans le sens où voilà, chacun fera de son mieux et de ce qui est au mieux pour lui, parce que chacun est expert de sa vie pour faire les choix qui lui sont... les plus profitables dans le sens le plus beau du terme et en sachant que on en a beaucoup parlé depuis tout à l'heure que ce qui meut le plus les gens c'est le sens et donc la confiance que dans le sens il y a la contribution en commun, il y a l'altérité, il y a le lien, etc. Je vous propose une petite pause musicale pour digérer tout ça déjà avant de passer à la deuxième partie que tu nous as promise.
Et comme tu parlais tout à l'heure du fait de gagner du temps, eh bien Merlot également cherche à gagner du temps. C'est dans son single qui vient de sortir il y a pas très longtemps. Merlot, Tic Tac.
Comme moi que c'est un truc sérieux. À force de courir sans cesse, on est tous malheureux. Les aiguilles qui tournent et qui pressent les gens chaque jour. Oui, c'est bon pour l'argent, c'est pas bon pour la vie, c'est pas bon pour l'amour. Mais toujours tic tac, tic tac, ça ne s'arrête jamais. Tic tac, tic tac, oh oh oh, tic tac, tic tac. C'est pareil, tic tac, tic tac. Ouais. Et tout ce temps à courir au fond, on ne sait même plus si en vrai ce ne serait pas un peu que du temps perdu. Papa, papa, le temps faut travailler. Papa, papa, le temps de se poser, il faut faire la monnaie. S'embrasse.
que c'est dangereux. Pourquoi ne pas se poser simplement un moment, profiter de la vie et profiter des gens, et gagner des amis en perdant qu'un peu de temps, et puis aimer la vie et l'aimer chaque jour et chaque instant. Oui, mais tic tac, tic tac, tous les jours c'est pareil, tic tac, tic tac. Ça ne s'arrête jamais, tic tac, tic tac, ouais. Papa, papa, le temps faut travailler. Papa, papa, le temps de se poser, il faut faire la monnaie. Papa, papa, le temps de s'embrasser.
Toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus sur le 106,6 et c'est l'heure de Tous Essentiels, l'émission du Revenu de Base.
Dans laquelle on a envie de danser et ça, on aimerait que ça s'arrête jamais. Mais bon, quand même, il y a des choses à se dire. Donc justement, Guillaume Matelier qui est avec nous, tu parlais de revenu d'existence, un revenu minimum d'existence pour ton expression précise. Est-ce que tu peux expliquer, parce que donc moi j'expliquais pourquoi on appelait ça revenu de base pour un terme générique, mais tu disais que le terme existence était important pour toi.
Alors oui, Ma vision des choses, c'est de dire quand on parle de revenu d'existence, on interroge philosophiquement ce qu'est l'existence. Et à partir du moment où on interroge l'existence, on se pose la question du sens, en fait, que l'on veut individuellement et même collectivement accorder à notre existence. Et pour moi, c'est un point assez essentiel parce que cela donne un objectif de vie. Et l'objectif qui va pour moi avec le revenu d'existence tel que je le défends, eh bien, c'est de mener une existence bien vécue. En quoi je peux me dire individuellement que je mène une existence bien vécue et quelles sont les conditions essentielles qui me permettraient de vivre une existence bien vécue. Voilà pour la petite précision.
Et alors du coup, tu nous as dit que tu articulais en fait deux leviers. Un revenu minimum d'existence, on peut un peu imaginer ce que c'est puisqu'on parle de revenu de base ici très régulièrement, donc quelque chose qui serait donné toute la vie, tous les mois, régulièrement. Et tu parles aussi d'un capital d'émancipation. Tu peux nous expliquer comment tu articules tout ça ?
Alors, mon idée de départ était de parler que du revenu de base, du revenu d'existence. Et puis, en lisant, en regardant ce que faisaient les autres, et il y a des philosophes qui m'ont passablement intéressé sur ces questions-là, c'était de dire, mais certains proposent par exemple des dotations en capital. Dotations en capital qu'on peut retrouver notamment chez l'économiste Atkinson ou justement dans L'héritage pour tous de Thomas Piketty. Et l'héritage pour tous ou la dotation en capital, c'est une sorte de somme de départ qui peut être délivrée par exemple à 18 ans, qui est assez substantielle par rapport au revenu de base qui est donné régulièrement, mais qui est donné en une fois ou en deux fois ou en plusieurs fois, mais en tout cas qui est assez substantielle pour bien démarrer dans la vie.
Et un gros cadeau, quoi.
L'un des arguments, c'était de dire, mais finalement, si on veut l'utiliser rapidement, pour monter un projet de vie, on peut le faire. Mais si on veut transformer cette dotation en capital pour en faire un revenu d'existence plus régulier, on peut aussi le faire. Donc voilà, si on a 60 000 euros, eh bien, on décide de transformer en rente avec derrière des mécanismes d'intérêt, tout ça. Alors, je trouvais ça intéressant, mais je me disais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et ma réflexion a été au-delà, en disant, mais qu'est-ce que je veux véritablement ? Et ce que je veux véritablement, c'est qu'on puisse toucher un revenu d'existence pour toute la vie. donc notamment le nom de mon livre, en tout cas le sous-nom, on va dire, du livre, puisque c'est l'égalité avant toute chose. Et je disais, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un mécanisme intégré ? Donc là, je revenais quand même presque à une vision pratique des choses. Et ce mécanisme intégré, c'était de dire, finalement, quand on naît, on n'a pas choisi sa naissance. Et à partir du moment où on n'a pas choisi sa naissance, la naissance devient la première circonstance de notre vie. Et cette première circonstance nous ouvre le droit à une dotation, ou nous ouvre en tout cas le droit à avoir un revenu au-delà de tout travail, de toute activité que je pourrais faire. Donc la société nous devrait quelque chose.
Je renvoie juste les auditeurs qui voudraient t'entendre sur ce sujet-là un peu plus longuement, sur ton TEDx, où tu développes bien cette idée pour mieux comprendre comment est-ce que la naissance est un droit, en fait. Donne droit à un droit.
Moi, j'en parle beaucoup dedans, et je passerai moins de temps ici ce matin, mais vous pouvez absolument regarder ce TEDx, ça va être très intéressant aussi. Et donc, de 0 à 18 ans, le mécanisme serait une forme de consignation du revenu d'existence dont j'ai le droit, puisque je suis né et que je n'ai pas choisi de naître. Et il nourrirait un capital d'émancipation et donc cette dotation de départ. Donc, pour moi, c'est finalement un revenu d'existence pour toute la vie, mais deux modalités de distribution. Une première distribution qui ne se fait pas et qui est capitalisée, et puis une deuxième distribution qui se ferait à partir de mes 18 ans jusqu'à la fin de ma vie, de manière régulière. Et à 18 ans, la dotation en capital qui me serait donnée. Pour moi, c'est important d'avoir quand même ces deux modalités, puisque le starter, la dotation de départ, c'est pour moi répondre à l'impératif et à l'objectif d'émancipation. Et puis, d'un point de vue sociétal, c'est le rééquilibrage entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Ceux qui ont peut-être la chance d'avoir un héritage ou des dons du vivant et qui pourraient, sans aucun mérite, par ailleurs. Je crois qu'il n'y a aucun mérite à voir ses parents mourir et toucher un héritage. Ça, c'est une autre discussion, on pourrait l'entamer longuement, mais on ne mérite pas l'argent qui a été accumulé avant nous. Et donc, de rééquilibrer ce problème de départ de l'héritage pour permettre à certains de démarrer dans la vie. Alors, pour moi, ça reste aussi universel, c'est-à-dire que tout le monde y a le droit et à égalité. Et puis, l'autre partie, le revenu de base, qui serait donné chaque mois, est pour moi essentiel pour garantir la régularité et donc la dignité, c'est-à-dire le fait que nous avons besoin au quotidien d'assurer et d'assumer les conditions essentielles de notre existence.
Ce que j'entends, c'est que le capital d'émancipation vient donner un coup de pouce au moment où on acquiert plus de devoirs. Alors, plus de droits, oui, mais plus de devoirs. Je le rappelle quand même à nos auditeurs et auditrices que pour l'instant, à 18 ans jusqu'à 25, on n'a rien. On est dépendant de la solidarité familiale. C'est la réponse du gouvernement face aux demandes de, par exemple, du RSA 18-25. Et donc là, en fait, ça donnerait de la liberté face aux parents, alors que ce soit des parents avec qui on ne s'entend pas, par exemple, que ce soit des parents qui n'ont pas les moyens de nous accompagner plus loin, etc., etc. Et du coup, de faire ses choix. Et en même temps, une forme de sécurité, parce que ça dure toute la vie. Donc au pire, même si on fait une connerie, entre guillemets, hein, parce qu'évidemment, on est dans un monde où les autres sont feignants, les autres ne savent pas penser, les autres feraient n'importe quoi avec l'argent, etc. Donc si on imagine le pire, c'est que le jeune ferait n'importe quoi avec son argent, il garde quand même une sécurité toute sa vie grâce au revenu d'existence que tu gardes quand même, c'est ça ?
Absolument, absolument, il y a ça. Et puis, le fait de se dire, il y a deux choses sur lesquelles il faut se battre. Premièrement, ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille aisée qu'on a été aimé. Il y a parfois des problèmes de capital affectif que l'on n'aura jamais par rapport à un capital, on va dire, monétaire qu'on pourrait avoir. Donc, ce n'est pas une garantie que nos parents aient envie de nous aider. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille aisée que c'est le cas. Et puis, ce n'est pas parce qu'on vient d'un milieu populaire qu'on n'a pas des rêves et qu'on ne veut pas mettre en avant des choses sans en avoir les moyens, mais peut-être qu'on a été aussi aimé. Par exemple, moi, je viens d'un milieu populaire, j'ai toujours été entouré de beaucoup d'amour. Bon, à 18 ans, j'ai tiré la langue. Ça a été compliqué pour faire mes études, il a fallu que je travaille, il a fallu que je fasse beaucoup de choix. Vous disiez tout à l'heure, j'ai plusieurs vies, mais c'est aussi parce que j'ai dû faire des choix aussi militants, d'aller travailler. Moi, je pars quand même d'assez loin sur les conditions sociales, malgré tout. orphelin de père, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais ma maman au minima sociaux puisqu'elle est handicapée, voilà, donc, et je m'en suis sorti, mais à la force du poignet et de ce que je pouvais donner intellectuellement. Mais on n'a pas tous cette chance-là. Et ce n'est pas parce qu'on vient de milieu populaire qu'on n'est pas aimé, mais ça ne veut pas dire qu'on vient de milieu populaire qu'on est aimé, et inversement pour les milieux aisés. Donc, ce qu'il faut, c'est poser la question avec une certaine neutralité, en disant, vous êtes né, vous avez des droits, et ces droits-là, ils se déclencheront automatiquement. Et ce que vous disiez aussi sur les 18-25 ans, ça, je crois que c'est important, et on en reparlera peut-être à la fin de l'émission, mais sur les 18-25 ans, aujourd'hui, c'est une abomination de penser qu'il serait normal de toujours repousser la majorité sociale là où on demande déjà à la majorité civique de prendre un certain nombre de droits et de devoirs à l'égard de la société. Mais le gouvernement n'en est pas à ses premières contradictions hein, sur cette question-là, bien évidemment, mais on ne va pas polémiquer non plus là-dessus. Voilà.
Bon, donc concrètement, est-ce que tu as des chiffres à nous donner, histoire qu'on situe un petit peu, même par rapport aux autres versions?
Non, alors sur le revenu de base, moi je suis plutôt sur la version hein, des MFRD. Là-dessus, on est sur une somme qui nous permet de vivre convenablement, mais on n'est pas sur 2000 euros, ce genre de choses, comme j'ai pu l'entendre ailleurs. On est vraiment sur la dignité essentielle, sur ce que l'on peut avoir. Alors, il y a peut-être un point aussi fondamental dont je n'ai pas parlé, qui est un peu plus technique, mais je fais aussi dans ma réflexion, partant de l'égalité du revenu de base pour tous, un petit supplément équitable. Parce que j'essaye de répondre à ce que j'appelle, d'une part, les besoins spéciaux, et de l'autre part, aux besoins locaux. Besoins spéciaux, c'est en fait tout ce qui concerne le handicap, un certain nombre de choses liées aux difficultés de la vie qui viendraient se poser au-dessus du revenu de base qui est donné.
Comme une compensation. Une compensation, à des circonstances particulières.
Absolument. Par exemple, l'AAH ne serait plus forcément l'AAH. Les personnes toucheraient le revenu de base et le point de vue équitable viendrait se mettre sur le revenu de base.
Comme un complément.
Ce n'est pas rien, d'accord, symboliquement. C'est-à-dire que tout le monde touche la même chose, oui, mais on considère qu'il y a une part équitable complémentaire. Et puis les besoins locaux, c'est de mieux comprendre les réalités locales. Quand on vit en Haute-Savoie ou quand on vit à Paris, il est bien évident que si on a 500, 600, 700 euros, eh bien, ce n'est pas pareil que quand on les a dans la Creuse, la Lozère ou même dans les Landes. Et donc, pour moi, il doit y avoir aussi une part de réponse aux besoins locaux, notamment liée au travail statistique sur le coût du logement, le coût de la vie en général. Pour moi, donc, il y a une analyse un peu plus fine, mais qui pourrait se faire avec les pouvoirs locaux. Et il me semble que ça aussi, c'est quelque chose d'un peu différent qu'on devrait mettre en avant, parce qu'il faut faire attention de ne pas, en voulant réduire des inégalités, créer d'autres inégalités symboliques. Ça, pour moi, c'est assez important. Et les collectivités locales pourraient être main dans la main sur ces questions-là. Ça pourrait peut-être être au niveau départemental. On a des observatoires des inégalités, des observatoires statistiques. On sait faire hein, pour d'autres politiques publiques. Et je pense que c'est tout à fait envisageable pour celle-ci.
Donc ce que j'entends, c'est que tu veux garder, même alors, symboliquement ou psychologiquement, même un socle commun égalitaire, parce qu'on, pour dire, on est tous équivalents, l'égalité, on peut ressortir le premier morceau de notre déclaration des droits de l'homme, nous naissons libres et égaux en droit, donc il y aurait au moins un minimum d'égalité en moyens aussi de vivre, et du coup symboliquement on est tous citoyens à part entière et à égalité, comme le droit de vote universel, voilà, on retrouverait cette idée-là.
Absolument.
Et du coup ça permettrait, donc ça c'est un socle qui reconnaît aussi du coup les personnes porteuses de handicap comme des citoyens à part entière, à égalité, etc. Et du coup ça permettrait de mieux montrer aussi en parallèle l'équité qu'on rajoute pour compenser certaines circonstances de la vie qui sont pas choisies, qui sont subies et qui nécessitent effectivement plus d'accompagnement du collectif, quelque chose comme ça.
Exactement, c'est exactement ça, bien traduit, bien paraphrasé. Donc c'est-à-dire que c'était bien compris, en tout cas je l'espère. Mais l'idée pour moi reste quand même, c'est pour ça que le livre s'appelle « L'égalité avant toute chose », mais ça ne vient pas de nulle part. C'est un philosophe américain, Ronald Dworkin, qui a été pour moi un des penseurs majeurs dans ma réflexion, il parle de l'égalité comme étant la vertu souveraine, qui en fait est, permet à toutes les autres vertus et à tous les autres principes d'être pensés. Par exemple, pour lui, il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas d'égalité, très clairement. Et la liberté est un point de vue dérivé de l'égalité. Donc, mon point de départ, c'est que de toute façon, il doit y avoir un socle commun, il doit y avoir une base commune, et cette base doit être égalitaire. On est tous, et c'est d'ailleurs dans cette circonstance qu'est la naissance, et c'est peut-être une des seules circonstances d'ailleurs, qui nous met toutes et tous à égalité. Personne ne peut dire qu'il n'est pas né. Rien qu'au moment où il le dit, il assume déjà le fait qu'il est né. Donc, partie de ce principe philosophique de départ qu'est l'égalité, eh bien, on peut construire quelque chose. Et après, bien évidemment, on est grand, petit, on peut avoir un handicap, etc., etc. Et donc, en tout cas, pour le handicap, on répond aux besoins spéciaux. Et puis, pour les besoins locaux, eh bien, ce sont des choses que l'on peut travailler avec, comme je disais tout à l'heure, des politiques qui sont des politiques publiques beaucoup plus locales, mais qui n'ont pas moins de sens, bien au contraire, puisque les politiques locaux sont ceux qui connaissent le mieux leurs citoyens.
Et du coup, sur cette égalité de base, voilà, a priori, tu fondes un nouveau contrat social, finalement, puisque si la société reconnaît d'emblée chaque individu, dès sa naissance, comme un droit inaliénable, etc., je vous confère la définition du revenu de base, du coup, instinctivement, on se sent appartenir, puisqu'on est accueilli par la communauté, et sans doute, ça c'est un levier psychologique, hein, on a envie de rendre et de participer, donc il y a un renforcement de ce qu'on appelle la démocratie, grâce à, juste à cette considération a priori de tout être humain.
Depuis quelques années maintenant, et ce n'était pas mon point de vue de départ, je m'intéresse à tout ce qui est psychologie cognitive. Et grâce à ça, j'ai pu, il y a tout un passage dans mon dernier livre, la psychologie à la rescousse de la philosophie. Parce que, tout en n'étant pas psychologue, on peut quand même réfléchir philosophiquement au fait que des conditions intellectuelles, des conditions psychologiques peuvent changer quand il y a plus de justice sociale ou quand on change les conditions matérielles. Et le fait de reconnaître à égalité à la naissance, de dire « Bienvenue dans la République, tu es reconnu comme tel et tu as des droits qui vont se déclencher au fur et à mesure, notamment le droit de vote à 18 ans, le droit au revenu, etc. etc. » Ça change les conditions psychologiques des gens qui sont dans cette société. Ça repose les cadres effectivement, du contrat social. Et Ronald Dworkin, par exemple, dit très clairement, une démocratie, l'un des principes fondateurs, c'est de reconnaître à égalité les citoyens, et il parle d'égale attention. Dans d'autres versions, il parle aussi d'égale valeur entre les citoyens. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître les projets des citoyens à égalité et leur naissance à égalité. Et c'est pas rien comme fondement moral. C'est pas anecdotique. Beaucoup aujourd'hui disent « Ouais, mais j'ai pas l'impression d'appartenir à ce grand corpus qu'est la République, vous me bassinez tous les jours, il faut être républicain, etc., etc. Mais je n'ai pas l'impression d'y appartenir parce que je me sens à l'écart, parce que je suis un citoyen de seconde zone, etc. » Et c'est une manière, en tout cas, d'y répondre. Parce que si on est au chômage aujourd'hui, oui, on a l'impression d'être dégradé dans sa dignité. Par contre, si on touche un revenu d'existence, on a l'impression que de toute façon, ce socle-là, il est inaliénable et que donc, je suis citoyen parce que j'ai aussi ce revenu-là et j'ai ce revenu parce que je suis citoyen. Il y a une forme de complémentarité par rapport à ça.
Alors ça
et puis peut-être pour répondre à la question de départ, parce que sur le capital d'émancipation, moi je l'imagine comme étant un rééquilibrage, je le disais tout à l'heure, et on serait aux alentours de 50, 60 000 euros qui seraient délivrés à l'âge de 18 ans. Alors, il peut y avoir plusieurs modalités. Ça, c'est des choses plus techniques dont on pourrait parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut aussi changer, si on parle de psychologie, et je reviens là-dessus, ça change les conditions psychologiques des enfants, parce que imaginez si à 13-14 ans, on vous dit, alors que vous êtes encore au collège, tu vas toucher cette somme-là, commence à réfléchir à ton projet de vie, qu'est-ce que tu aimerais faire, comment tu aimerais travailler, comment tu aimerais équilibrer ta vie, eh bien, vous avez vos conditions psychologiques qui changent.
Mais
et puis ça change les conditions psychologiques de vos parents, parce que si vos parents n'ont pas l'impression qu'ils vont devoir se saigner pour pouvoir vous offrir des études, pour pouvoir vous permettre eh bien, de réaliser vos premiers rêves, de voyager ou de faire autre chose, ou d'investir hein, dans une activité pour devenir employeur, devenir, je ne sais pas, enfin, ce que vous avez envie de faire, eh bien, ça change aussi les conditions psychologiques des parents. Et je crois qu'aujourd'hui, la philosophie ne peut pas ne pas réfléchir sur la psychologie et sur et particulièrement sur comment se construisent les individus au-delà d'un individu qui serait uniquement statistique.
J'ai envie de compléter. Moi, ma spécialité ou mon intérêt sur la psychologie, c'est moins les sciences cognitives que les sciences psychosociales et affectives. Et on parle beaucoup de l'attachement sécure que les parents apportent à leur enfant ou pas. Et un attachement sécure, c'est un attachement dans lequel l'enfant se sent aimé inconditionnellement. Ce qui ne veut pas dire que les parents ne vont pas se fâcher, ne vont pas sortir de leur gond quelquefois. Mais en tout cas, l'enfant sait qu'il est aimé, il est accepté. Et donc, il vit de la sécurité affective dans le cadre familial. Et en t'écoutant, ce qui me vient, c'est que finalement, ce revenu de base et cette impulsion qui est donnée à 18 ans, c'est une double confiance, une confiance sociétale qu'on accorde, comme si finalement le noyau familial pouvait être aussi grand qu'une société et que la société joue cet attachement sécure avec chacun de ses citoyens et chacune de ses citoyennes en disant a priori je couvre tes besoins alors enfant évidemment mais aussi toute ta vie avec une impulsion parce qu'à 18 ans tu seras reconnu comme citoyen, tu pourras voter, tu pourras aller en prison et donc on te donne de quoi comme un trépied quoi, hein, quelque chose qui te sert d'élan, quelque chose comme ça.
Bon, on le sait hein, quand des enfants par exemple qui vivent dans une famille aisée touchent un don du vivant ou touchent un héritage, leurs conditions changent matériellement. Alors souvent peut-être avec de souffrance derrière, parce que si c'est un héritage, il peut y avoir une souffrance psychologique, affective, mais si c'est un don du vivant, on voit bien la différence que ça fait sur des jeunes qui peuvent se lancer dans une propriété ou dans un projet économique. On voit bien la différence. Et on se cache les yeux quand ça n'est pas le cas. Oui, mais bon, ils ont eu de la chance, mais ça ne peut pas être comme ça pour tout le monde d'une certaine manière. C'est-à-dire, on ne met pas tout le monde sur le même point de départ. Moi, ce que je veux, c'est rééquilibrer le point de départ. Ça ne veut pas dire qu'on arrivera tous au même point à la fin. Ça serait autrement bien chiant, d'ailleurs. On ne court peut-être pas tous le 100 mètres à la même vitesse. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent courir le 100 mètres. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Se donner un peu de baume au cœur avec cette idée-là. Tu parlais tout à l'heure de contrat social. Moi, je pense qu'un contrat social, ce n'est pas uniquement quelque chose de figé. C'est quelque chose de mouvant. Hein, la sociologie l'a amené aussi de cette manière. Il y a un très beau mouvement en France, le solidarisme, qui est une base assez essentielle de notre démocratie aujourd'hui. Et on a trop peu de temps souvent pour voir ce mouvement a pu apporter. C'était les radicaux, notamment sur la dette que l'on a à l'égard des générations, que ça soit l'héritage que l'on a reçu des générations passées et la dette que l'on pourrait donner ou que l'on ne veut pas donner de manière négative aux générations futures. Il faut relier tout ça à travers quelque chose qui n'est pas figé. Le contrat social, ce n'est pas figé, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, quelque chose qui est toujours réinterprétable. Et pour moi, l'expression même de revenu d'existence, une existence, c'est fait de heurts, c'est fait de hauts, c'est fait de bas, c'est fait de cassures, c'est quelque chose de mouvant, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Et donc, d'une certaine manière, ce contrat social doit aussi exister dans cet ordre-là, dans ce même ordre-là.
Merci beaucoup. Une petite pause avant de continuer et que tu nous dises comment tu finances ça, parce que évidemment, ça va se poser comme question.
Bien sûr.
Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. C'est dans le fœtus un beau matin que pousse souvent le poil dans la main, rien que pour dire aux courageux qu'il s'en est fallu de peu. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. C'est à l'école qu'il faut choisir, en mettre un coup et bien marner, pour pouvoir espérer devenir un vrai de vrai ramier. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Car pour buller, faut la jouer fine, pas se contenter, c'est primordial d'avoir le premier prix de cantine ou de visite médicale. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Tous les milieux sont concernés, les riches, les pauvres, même les curés, avec ceux qui passent leur journée à faire semblant de bosser. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Les ceux qui fabriquent des canons ont leur statut dans les blédards. Personne n'a sculpté le mirliton de l'inventeur du plumard. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Un jour y en a et pas le lendemain, un couturier, un coutubleur. Car le travail ça va, ça vient, comme les burnes d'un faucheur. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer.
Allez, c'était un peu une petite blague de Yvan Etienne. Il est important d'aller travailler. Vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus sur le 106,6 pour Tous Essentiels, l'émission du revenu de base.
Et d'ailleurs, on est tous en train de travailler. Là, on est tous bénévoles à parler dans des micros. Et vous, vous êtes en train de travailler votre cerveau à imaginer une société où on aurait, à partir de la naissance ou quasiment entre 600 et 700 euros par mois, et un gros capital d'émancipation de 50 à 60 000 euros à 18 ans pour commencer la vie. Mais du coup, Guillaume, on va nous poser la question, forcément. Comment est-ce que tu finances tout ça? Prouve-nous que c'est crédible.
Alors, le problème, quand on pose cette question à un philosophe, généralement, il fuit, parce que ce n'est pas son domaine. Mais je vais essayer de ne pas fuir, parce que j'ai dit tout à l'heure que j'étais, en tout cas, dans une démarche de philosophie pratique. Donc, le but, c'est de pouvoir conjuguer les objectifs politiques aux objectifs philosophiques et inversement. Alors, je pense qu'il y a plusieurs pistes, mais les meilleurs financements sont ceux déjà qui sont compris et sont ceux qui sont acceptés. On parlait tout à l'heure de contrat social. Je pense qu'il faut retravailler sur l'acceptation. Là-dessus, j'ai travaillé un peu avec des collègues du Québec qui sont plus sur les questions fiscales, philosophes par ailleurs, notamment sur l'acceptation, c'est-à-dire que le revenu doit être, d'une part, il y a des bénéficiaires, mais aussi des contributeurs. Donc, l'individu bénéficiaire doit être le plus proche de l'individu contributeur et c'est là où on augmente la base d'acceptation. Alors, aujourd'hui, il y a des pistes, notamment sur le numérique. Alors, quand on dit ça aussi, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on est dans l'acceptation que la société n'est peut-être pas extraordinaire et qu'on va en tirer les bénéfices et les fruits. Donc, ce n'est pas le grand soir, ce n'est pas la grande révolution, mais malgré tout, aujourd'hui, il y a des sociétés du numérique qui se font des milliards sur notre dos et nous, on donne nos données gratuitement. Donc je pense qu'il doit y avoir un travail fait sur la valorisation du like, la valorisation du retweet, etc., puisque ce sont des données, et ces données, d'une certaine manière, ne nous appartiennent plus. Ça, c'est un des points de vue de départ. Il y a aussi un travail qui avait été fait par un vice-chancelier de la Confédération en Suisse, puisque moi j'enseigne aussi en Suisse, et un travailleur frontalier à cet égard-là. Au moment où ils ont défendu, au moment de la votation en Suisse sur le revenu de base inconditionnel, l'une des bases qui était posée, c'était la microtransaction, une taxe sur les microtransactions. C'est-à-dire, on prélève 0,01% sur toutes les transactions électroniques, sur tous les échanges numériques au niveau monétaire. Vous achetez avec votre carte de crédit, 0,01% est prélevé. C'est imperceptible, mais ça change la donne puisque ça permet le financement. Et le calcul qui avait été fait au niveau de la Confédération pour le vote, il y a quelques années en arrière sur le RBI, avait été réaliste à ce niveau-là. Et je connais assez bien les Suisses et encore plus un vice-chancelier Suisse Confédération pour ces questions-là. On rigole pas quand on parle d'argent en Suisse, hein, très clairement.
Donc, comme c'est sous forme de pourcentage, il y a une forme de justice aussi, parce qu'évidemment, le pauvre qui dépense peu parce qu'il n'a pas beaucoup, il ne va pas beaucoup payer de taxes. Par contre, le riche qui s'achète un yacht, je prends des caricatures, du coup, son 0,01...
Il y a même encore plus intéressant que ça, c'est qu'en fait, quand tu achètes des actions, d'habitude, tu n'es pas taxé du tout. Et alors que là, tu serais taxé quand même.
Donc tu pourrais peut-être moins jouer avec le cours du blé, etc.
Reparti.
Alors, du coup, maintenant, ce que j'aimerais, Guillaume, c'est que tu nous dises, parce que c'est vrai qu'elle est très tentante, ta version, mais comment est-ce qu'on y arrive ? Parce qu'on part du réel. Donc, pour être une utopie réaliste, quels sont les petits pas qui te sembleraient accessibles progressivement ?
C'est vrai que quand on est dans une stratégie des petits pas, on a toujours l'impression qu'on perd quelque chose et qu'on n'arrivera jamais à l'idéal, etc. Bon. C'est vrai que ça peut être une vision des choses. En attendant, l'objectif, c'est de répondre à des problématiques du quotidien aussi. Hein. Ce que je peux avoir dans ma mairie, par exemple, avec des habitants, des citoyens qui viennent nous voir, qui font le parcours du combattant du précaire, qui passent d'une administration à l'autre et qui disent « bon, ok, très bien, et comment je fais pour m'en sortir ? Comment j'arrive à joindre les deux ?» Donc, on leur doit aussi quelque chose à ce niveau-là. Et tout un travail est fait, notamment par certains députés. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec le député Brice Vallot, aujourd'hui président de groupe du Parti Socialiste, Hervé Solignac, sur ne serait-ce que la réflexion autour d'un revenu, alors qu'ils appellent de base aussi, mais qui ressemblait un peu à ce qui était fait et ce qui était pensé au niveau des départements, au moins pour réaligner avec le RSA et permettre à chacun de pouvoir vivre décemment. Et surtout, de résoudre cette problématique de 18 à 25 ans, de rapprocher la majorité sociale de la majorité civique. Et puis, il défendait aussi, dans le travail que nous avions fait, une forme de dotation, alors pas aussi importante que celle que je défends, mais qui vous permet eh bien, de démarrer, de payer vos permis de conduire, de payer une partie de vos études, d'avoir un cautionnement pour un premier appartement, etc., etc. C'est pas rien. Alors, ça apparaît petit, mais il n'empêche que même ça, le gouvernement ne s'en est pas saisi, alors que pour moi, c'était assez essentiel comme point de départ pour faire les choses. Aujourd'hui, vous avez aussi toute une réflexion, notamment portée par le député Arthur Delaporte. Hein, j'ai eu l'occasion de contribuer à une note la semaine dernière de la Fondation Jean Jaurès, qui aborde aussi ces questions au moment où nous parlons de la réforme du RSA. Et où on rendrait obligatoire des nombres d'heures, c'est du travail déguisé, ni plus ni moins pour moi, et où on ne se pose pas tant que ça la question de l'insertion et de l'inclusion dans la société, mais du fait uniquement de la question économique, de l'emploi. En fait, c'est vraiment le projet de France Travail à travers les précaires qui se dessinent. Donc, cette stratégie des petits pas, elle est quand même intéressante, mais elle ne doit pas jamais, en tout cas, nous faire oublier notre idéal, qui est un idéal d'égalité, un idéal que l'on porte, qui va beaucoup plus loin. Mais peut-être que là, les circonstances des prochaines années nous inviteront peut-être plus largement à regarder le monde tel qu'il est. L'intelligence artificielle, le réchauffement climatique vont nous poser très clairement des questions sur nos modes de production, nos modes de consommation, et donc systématiquement sur nos modes d'existence, hein, la manière dont nous continuons à exister dans tout cela. La semaine dernière, on l'a vu, les entreprises françaises, en tout cas une, commençaient à licencier deux tiers de ses employés pour remplacer par une intelligence artificielle. De l'autre côté, en Suisse, un grand groupe de presse, le plus grand groupe de presse, commence à licencier aussi pour anticiper la fin de la presse papier et donc derrière le numérique. Aujourd'hui, vous pouvez écrire des articles pas trop mal, pas trop mauvais en tout cas, avec l'intelligence artificielle. Alors, ils n'auront pas beaucoup de sens, bien évidemment, ils ne seront pas hyper intéressants, mais ils feront le boulot pour des personnes qui ne sont pas forcément exigeantes. Donc, on doit se poser toutes ces questions-là, et comme je le disais tout à l'heure, quand on parle du revenu d'existence, on interroge le contrat social, on interroge toute la société, on interroge toute la vie, et là, on se voit très clairement dans un moment où cette vie s'accélère et cette société s'accélère aussi dans les mutations profondes qu'elle a.
Oui, et je pense qu'il y a quelque chose aussi à rappeler, c'est que la plupart des combats ou des évolutions et même du progrès en général humain, ça a été vers du travailler moins. Travailler moins, travailler mieux, pour se libérer du temps de vie, pour et c'est ça la logique, c'est ça la logique des choses quoi. C'est ce qui devrait en tout cas être notre voie, notre direction. Alors que là, on est complètement dans l'inverse, à vouloir faire travailler les gens, à dire mais c'est bien, je suis riche et je fais travailler des gens, donc ça viendrait légitimer. Que j'ai beaucoup plus d'argent que tout le monde et beaucoup plus que ce dont j'ai besoin d'ailleurs. Et donc effectivement, revenir à quelque chose de... Ok, le but de la vie n'est pas de travailler le plus possible, non. Le but de la vie, c'est d'en profiter, c'est d'être heureux, c'est de rendre les gens heureux avec voilà, toutes les notions de sens, d'égalité, de liberté qu'on a évoquées aujourd'hui. Mais de revenir aux bases, et quand on me parle par exemple d'un logiciel qui pourrait remplacer 1000 personnes dans une entreprise, on devrait s'en réjouir. Alors, je mets le coût écologique de côté, hein, c'est une autre question qui a toute son importance, mais on devrait se réjouir de réussir à trouver un outil qui travaille et qui libère du travail 1000 personnes. Alors que là, comme ça les empêche d'avoir accès aux revenus, bah, c'est évidemment problématique. Alors qu'effectivement, avec ta version qui dure toute la vie et qui donne une impulsion, à 18 ans, on n'a plus besoin de travailler pour vivre, on n'a plus besoin de courir après des emplois. Et du coup, on évite tout un nombre de chantages. Je pense à certaines grosses entreprises qui font du chantage à l'emploi en disant « Je ne paye pas d'impôts en France parce que je vais créer je sais pas, 1000 emplois ». Dans quelles conditions ils n'en parlent pas. Mais donc voilà, donc si on ne court plus après l'emploi et qu'on court juste après, comment est-ce qu'on peut se libérer du temps et puis vivre avec le minimum, tu parles d'un minimum d'existence, de dignité. Bon, j'ai l'impression qu'on revient dans quelque chose de serein et de sain, quoi. Il n'y a pas de.
Oui, il faut maintenant se projeter un peu différemment. J'ai l'impression que les politiques publiques. Sont clairement dans le déni. L'intelligence artificielle va bousculer les choses, c'est évident, et on le voit, même moi en tant qu'enseignant, on a des discussions avec nos étudiants sur cette question-là, de leur rapport à la vérité, du rapport à leur créativité. Ce sont des questions qui deviennent hautement philosophiques sur qu'est-ce que l'on veut de notre humanité. On a commencé par la philosophie et on va terminer par la philosophie, mais il faut vraiment qu'on puisse se poser ces questions-là. Et j'ai l'impression que le gouvernement aujourd'hui est largement dans le déni sur ces questions. Il y avait une très belle affiche que j'ai vue dans un grand magasin, la Fnac, pour pas trop le citer, mais c'est pas inintéressant. C'était « Avec les algorithmes, plus rien ne nous déplaît, mais plus rien ne nous surprend ». Voilà, très clairement, on a à peu près ce que l'on veut, mais on n'est plus surpris par grand-chose. Ben, moi, ce que j'aimerais, c'est que quand on pose aussi cette question du revenu de base, c'est toujours pour se dire l'humanité est au cœur, les prises de décision restent toujours des prises de décision humaines et on a besoin d'être surpris dans la société et dans la vie. En tout cas, pour moi, je ne crois pas trop au mantra, mais ça pourrait en tout cas être une phrase clé que je pourrais défendre. Laissez-vous surprendre et laissez-moi vous surprendre.
Eh bien, écoute, ça va être une conclusion magnifique. Je vais juste glisser, pour ceux qui voudraient creuser, découvrir tes écrits. Donc, il y a ton livre « L'égalité avant toute chose ». Et il y a un site où on peut trouver quelques-uns de tes travaux. Alors, on le mettra aussi dans le descriptif sur le site revenudebase.info pour que vous puissiez juste cliquer. Sinon, c'est unige.academia.edu/Guillaume Matelier. Merci beaucoup, voilà. Guillaume, pour le temps que tu nous as consacré. On te rend à tes étudiants, à tes citoyens et à tes proches. Et puis au plaisir de vivre ensemble les prochains petits pas et de voir éclore une partie de notre rêve.
Eh ben, c'était un grand plaisir, en tout cas, et c'est vraiment chouette de pouvoir prendre du temps pour parler de ce qui nous anime les uns et les autres.
Avec plaisir. Bonne journée à toi et à tous.
Et puis le mois prochain, on se retrouve avec...
Avec Nadia.
Eh bien, écoute, allez, rendez-vous le mois prochain.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.